9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, AVS, ça veut dire à votre santé, à votre bonne santé, à vous tous. Merci d'être là, comme tous les matins. J'ai invité Pierre Nantas avec nous, bonjour, et bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour Philippe.
Voilà, vous êtes psychothérapeute, vous êtes spécialiste du trouble borderline. Voilà, et vous avez coécrit un livre qui s'appelle « Le système borderline, histoire de famille chez l'Harmattan ». Alors, je dois dire que je ne connaissais pas du tout ce que c'était, ce qu'on appelle une personnalité borderline. J'en ai une en face de moi. Pourquoi est-ce que c'est mal connu ? C'est parce que c'est un trouble qui est rare ?
Non, au contraire, c'est un trouble qui est très fréquent, malheureusement mal diagnostiqué. Et l'appellation borderline est un peu galvaudée, c'est-à-dire qu'on va se dire « tu es borderline », comment vous dire « tu es pervers narcissique ». Donc c'est tombé dans une espèce de vulgarisation, alors qu'il s'agit d'un vrai trouble de la personnalité qui fait souffrir.
Même si le mot est connu, on l'utilise souvent, on dit tiens, il est borderline. Ou...
Il y a même un groupe de rock qui s'appelle Borderline.
Ah, je ne savais pas que vous avez. Enfin, comme quoi, je ne savais pas que vous vous intéressez au rock. Donc, l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, quand elle a répertorié le nombre de personnes qui sont touchées par ce trouble, dit que ça concerne à peu près 2% de la population mondiale.
Oui, enfin, on est largement en dessous. Je pense qu'on peut monter un peu plus. Je dirais 3,5, 4%. Hein. D'autant que c'est un trouble qui augmente au fur et à mesure. Parce que avec la société, je crois que la société fabrique pas mal de borderline.
Alors, il y a plusieurs noms. Il y a trouble de la personnalité borderline. Il y a aussi trouble de la personnalité limite.
Oui, alors c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, si vous voulez, ça s'appelait trouble de la personnalité limite. Lorsque ça a été découvert dans les années 50, c'était la limite entre la névrose et la psychose. C'est pour ça qu'on appelait ce trouble à personnalité limite.
Alors, on va essayer de définir ce que c'est précisément ce matin. J'imagine que certaines personnes vont se reconnaître ou reconnaître des personnes de leur entourage. Est-ce qu'un borderline, par exemple, un trouble de la personnalité borderline, ça ressemble à quelqu'un qui est bipolaire ?
Non, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'un bipolaire va avoir des périodes de déprime qui vont durer un certain temps, et puis après des moments d'excitation. Alors que le borderline, c'est dans une même matinée ou dans une même journée, il va passer par des hauts et des bas, sans raison et d'une seconde à l'autre. Donc ça n'a rien à voir avec le bipolaire.
Ce qui n'est pas le cas du bipolaire.
Non, le bipolaire va avoir des périodes beaucoup plus longues entre les moments de dysphorie et d'euphorie.
D'accord. Donc ce qui caractérise une personnalité borderline, c'est qu'elle va passer d'un état à un autre très très rapidement.
Tout à fait. Et souvent sans raison apparente.
Mmh. C'est-à-dire, comment on le repère ?
Bah écoutez, nous sommes tranquillement en train de prendre le petit déjeuner, et puis tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, vous dites une parole ou il y a quelque chose qui se passe dans ma tête, et mon visage se ferme, je vais partir en colère, ou je vais sortir, ou je vais me mettre à pleurer, on ne sait pas pourquoi. Et puis, dans la demi-heure qui suit, je vais changer de comportement, je vais rire, je vais être heureux, etc. C'est ça le trouble borderline, c'est très 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 difficile à gérer pour les proches.
Comment on appelle ça, le fait de changer d'humeur rapidement ?
C'est la labilité émotionnelle.
C'est pas de la cyclothymie ?
Ah non, oui, on peut dire que c'est cyclothymique, oui, si vous voulez, oui aussi, oui. Ouais, ouais.
Alors qu'est-ce que vous savez de la façon dont on passe d'un état à un autre ?
Bah, en fait, si vous voulez, au fur et à mesure qu'on a avancé dans la recherche, on s'est aperçu qu'on pouvait passer d'un état à un autre pour des raisons parfois inconscientes. C'est-à-dire que dans l'enfance, nous avons eu éventuellement des traumatismes ou des chocs émotionnels qui nous ont laissé des marques. Et lorsque, dans la vie adulte, quelque chose se produit dans notre contexte qui rappelle de près ou de loin ce choc primal, si on peut dire, on a une réaction complètement disproportionnée.
Mmh.
C'est une explication.
D'accord. Est-ce qu'on sait précisément justement qu'est-ce qui est à l'origine du trouble ?
Alors dans mon livre, je liste cinq origines.
Qui pourraient donc expliquer que les personnes le deviennent.
C'est cela.
D'accord.
Alors la première origine, c'est une origine, j'allais dire, transgénérationnelle. C'est-à-dire des arrière-grands-parents, des parents, des secrets de famille qui peuvent, si vous voulez, avoir perturbé l'évolution de l'enfant. Alors, le trouble borderline, je voudrais juste en dire un petit mot là-dessus, c'est qu'il n'est pas prouvé que c'est génétique. C'est-à-dire
que
vous pouvez...
Parce que j'ai vu en préparant l'émission qu'il pouvait y avoir des familles, qu'il y avait des familles de personnes qui étaient dites borderline.
Oui, mais vous pouvez avoir... alors évidemment, si vous avez un arrière-grand-père qui s'est suicidé ou des parents qui ne sont pas très très clairs, on peut imaginer, si vous voulez, que l'enfant va avoir une fragilité. Mais c'est plutôt une fragilité du fait d'avoir fréquenté des gens qui n'étaient pas très clairs, plutôt qu'une fragilité génétique. Vous voyez ce que je veux dire ?
D'accord. Hein ?
Ensuite, il y a une deuxième cause, c'est la grossesse. C'est-à-dire si la maman, pendant qu'elle est enceinte, subit des stress très importants, il se produit de la fabrique de cortisol, et on dit aux femmes de ne pas fumer, de ne pas boire, mais par contre, on leur dit pas « ne vous stressez pas ». Et si la mère a une grossesse hyper stressée, notamment au cours des 4 derniers mois de grossesse, eh bien, lorsque l'enfant apparaît, il est déjà largement chargé, si je puis dire, d'angoisse. Et donc, il va avoir une hyperfragilité émotionnelle.
D'accord.
Ensuite, il y a une troisième période, c'est la période postnatale. D'ailleurs, si l'enfant a des difficultés tout de suite après la naissance et qu'il se retrouve en néonatal, je veux dire en pouponnière, qui est séparé de la mère, ben, il va y avoir, si vous voulez, l'installation d'un processus d'abandon qui est une des caractéristiques du borderline. Le borderline a d'abord toujours peur d'être abandonné, toujours peur d'être laissé, rejeté. Et donc, évidemment, si dans la petite enfance, il est rejeté ou abandonné, disons que s'il est coupé de sa mère, il va y avoir une fragilité. Enfin, il y a une dernière période, c'est lorsque l'enfant quitte la famille pour aller à l'école. Et l'école, c'est pas quelque chose de très sympathique, parce que c'est un monde, comme disait Freud, où il y a des pervers polymorphes, et on se retrouve
Alors, il faut arrêter avec tout ça. L'école, c'est bien.
Oui, on se retrouve avec des sales gosses, parfois même des éducateurs qui sont pas forcément très sympathiques. Et si l'enfant est déjà hypersensible de base, bien évidemment, il est plus exposé.
Hein. Bon, voilà. Il n'est pas dit qu'il y en avait cinq ?
Oui, le cinquième.
Ah oui, parce que si vous m'en donnez quatre, là, moi, je termine pas ma matinée, là.
Le cinquième, c'est quand on arrive au lycée. C'est-à-dire au moment de la puberté. Où là, si vous voulez, tout bascule. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui ont été très, très tranquilles, très sages, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, et quand arrive la puberté, là, tout explose. Ça part dans tous les sens, et là, c'est à ce moment-là, si vous voulez, que surgissent les caractéristiques, les symptômes les plus graves du borderline, notamment pour les filles, les crises d'anorexie, et pour les garçons, la violence, les bagarres. Ajoutez à ça, si vous voulez, que de plus en plus souvent maintenant, et de plus en plus jeunes, les enfants, les jeunes boivent et puis fument du cannabis, ça n'arrange pas les choses.
Voire même pire, si
voilà.
Vous saviez.
Oui.
À quel âge se manifestent donc les premiers symptômes de cette personnalité ?
Alors, les premiers symptômes se manifestent vers 15-16 ans. Mais malheureusement, si vous voulez, la médecine refuse de diagnostiquer un borderline avant l'âge de 18 ans. C'est-à-dire que jusque le jour de votre anniversaire des 18 ans, vous n'êtes pas borderline. Par contre, quand vous avez 18 ans, là, vous pouvez être borderline.
Alors, quels sont les premiers symptômes qui vont s'exprimer ?
Les premiers symptômes, ce sont des symptômes de désespoir, de rejet, qui ont lieu par rapport à l'abandon. Je vous parlais tout à l'heure hors antenne d'une jeune femme qui a 16 ans et son petit copain l'autre jour lui a dit je te quitte, je m'en vais. Ça faisait déjà un certain temps qu'il était sur Instagram, il regardait d'autres filles. Elle a pris peur et elle lui a fait une scène et le gars lui a dit ben non, ben je regarde d'autres filles, j'ai le droit, puis c'est tout, puis c'était comme ça, t'es jalouse, ben je m'en vais. Donc il l'a quittée brutalement et dans les trois heures qui ont suivi, elle a appelé tout le monde en disant qu'elle allait se suicider, etc. Donc ça, si vous voulez,
elle était sur le balcon, donc effectivement, voilà. Ouais. Hein, donc quelle différence vous faites avec une crise de jalousie et le fait d'être borderline dans ces cas-là? Qu'est-ce qui permet de poser le diagnostic?
C'est l'intensité de la crise. Tous les gens qui sont jaloux ne menacent pas de se suicider. Par contre, si vous voulez, l'intensité de la crise, là, c'est pas tellement la jalousie. C'est que, si vous voulez, c'est le sentiment d'abandon. Il y a eu un vide énorme. Et une des caractéristiques du borderline, c'est un sentiment de vide sidéral. Hein, lorsque vous demandez à quelqu'un un borderline qu'est-ce qu'il ressent, il dit je me sens vide. J'ai une patiente qui me disait que pour me faire l'image, c'était l'image d'un puits sans fond et sans margelle. Ouais, donc c'est catastrophique, n'est-ce pas?
C'est le vide infini en fait.
C'est le vide infini, c'est le trou noir qui absorbe tout.
Bon, pour qu'on comprenne bien ce matin, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un trouble qui est mal connu, qui est souvent pris, on l'a dit tout à l'heure, pour de la bipolarité, mais ça n'en est pas, si j'ai bien compris, parce que vous avez dit que l'intensité des crises était bien plus importante et en tout cas moins espacée, donc on passait d'un état à un autre. Oui. Donc, est-ce qu'on peut définir des traits communs de personnalité des gens qui sont borderline? Ou pas?
Non, je pense qu'on... Si vous voulez, il ne faut pas retomber dans le...
Le profilage, vous voyez.
Ouais, je pense que, si vous voulez, il y a plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est la peur de l'abandon, mais vous pouvez très bien souffrir d'abandon sans être borderline. On est bien d'accord. Le sentiment de rejet. Vous pouvez vous sentir rejeté sans pour autant être borderline. Vous avez également des colères spontanées. Vous pouvez avoir des colères spontanées sans être borderline, etc. Mmh. Ce qui caractérise le trouble borderline, c'est qu'il a toutes ces caractéristiques-là, tous ces symptômes en même temps. Mmh. Hein?
J'ai retrouvé quand même, quand je me suis intéressé au sujet, une hyper-émotivité. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette hyper-émotivité, c'est un trait caractéristique de tous les borderline ou pas?
Non, c'est une caractéristique, en effet.
D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle l'hyper-émotivité?
C'est-à-dire que tous les sens sont en éveil et quelque chose qui pourrait vous passer dessus par hasard, comme ça, un borderline, ça le touche jusqu'au fond. Hein. Donc c'est une hyper-émotivité. Vous pouvez vous mettre à pleurer en écoutant une musique. Vous pouvez vous mettre en colère en entendant une phrase qui a été prononcée par quelqu'un, alors que l'autre va dire « Mais pourquoi tu te mets en colère pour un truc comme ça? C'est pas grave. » Eh bien, l'hyper-émotif, si vous voulez, donc le borderline va dire « Mais comment ?» etc. Il va exploser.
C'est vrai, c'est explosion comme une cocotte minute. C'est-à-dire que c'est immédiat.
C'est la cocotte minute, vous avez bien pris le... Ça passe du vert au rouge instantanément. Hein. Mmh.
Et ça retombe derrière ou pas?
Ça retombe, oui. Ça retombe à condition qu'on sache gérer ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que, en fait, si vous voulez, un borderline est le symptôme d'un malaise familial, très souvent. C'est-à-dire que le borderline n'est pas compris dans sa famille, mais il y a des cris, quoi. Il se met à hurler. Et une des choses qu'il faut pas faire avec le borderline, c'est lui dire tout va bien, t'inquiète pas, calme-toi.
Quand quelqu'un s'énerve, en général, on lui dit calme-toi. C'est quand même la première chose qu'on dit. Calme-toi, tu vas te calmer là.
Exactement. Et ben avec un borderline, au contraire, ça le fait exploser trois fois plus.
Pourquoi?
Ben parce qu'il vous dit mais me calmer, mais tu sais pas ce que c'est, mais tu te rends pas compte, etc. Et donc avec un borderline, il faut surtout lui dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui va pas. À partir du moment où on donne la possibilité au borderline d'expliquer son ressenti et son hyper-émotivité, comme vous l'avez fort bien dit, à partir du moment où il se sent écouté, du coup, la pression redescend. Ce qui fait chez le borderline...
On a enlevé la capsule, là.
On a enlevé la capsule. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le borderline pense qu'il n'est pas compris. Une des caractéristiques essentielles du borderline, pardon, c'est une très mauvaise image de lui-même. Il ne s'aime pas. Il pense qu'il est nul, il pense que personne ne le comprend, il pense qu'il est le seul à ressentir ça, il pense qu'il va être abandonné toutes les 5 minutes, etc. Donc, si vous voulez, si on lui dit « je te comprends, raconte-moi qu'est-ce qui ne va pas », à ce moment-là, les crises diminuent en intensité et en fréquence.
Il y en a beaucoup qui passent d'ailleurs sous les radars, hein, qui pas diagnostiqués, et qui arrivent à camoufler d'ailleurs leur trouble. Hein.
Tout à fait. Ce sont des personnes, si vous voulez, qui se renferment complètement dans une espèce d'autisme, on va dire. Hein. C'est-à-dire, ils ne parlent pas, ils sont enfermés sur eux-mêmes. Il n'y a pas intérêt à trop aller les chatouiller, parce que quand ça saute, ça explose. Hein.
Pas leur marcher sur les pieds.
Exactement.
Bon, alors, on essaie de comprendre ce trouble, hein, le trouble borderline ce matin. On va voir tout à l'heure comment le gérer, et surtout, pour les familles, comment on se comporte avec une personnalité, parce que c'est un trouble qui met la famille en échec, souvent, puisqu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le système borderline, histoire de famille » chez l'Harmattan, et Pierre Mantas, donc vous êtes psychothérapeute spécialiste de ce trouble qu'on évoque ce matin, le trouble borderline, vous êtes notre invité, et vous pourrez poser vos questions dans un instant, si vous en avez, au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors c'est Pierre Mantas qui est notre invité aujourd'hui, vous êtes psychothérapeute et vous êtes un des spécialistes en France de ce qu'on appelle le trouble borderline. Alors avant on disait que c'était pas, qu'on pouvait pas le prendre en charge, aujourd'hui quand même il y a des prises en charge qui commencent à arriver en France et donc les personnes qui souffrent de ce trouble peuvent être, on va dire, soignées entre guillemets.
Oui tout à fait, le trouble borderline se soigne très très bien avec la psychothérapie. C'est le seul moyen de sortir de ce trouble.
Alors vous êtes un antidépresseur, d'une certaine façon.
Oui.
En disant que ce n'est pas le traitement qu'il faut donner aux personnes qui souffrent d'un trouble borderline et que ça ne fonctionne pas sur la durée.
Ça ne fonctionne pas sur la durée. Cela dit, si vous voulez, lorsque vous arrivez, lorsque un patient arrive en crise à l'hôpital, qui menace de tout casser, on ne peut pas faire autrement, si vous voulez, que de lui donner des antidépresseurs pour le calmer. Mmh. Mais lorsqu'il sort de l'hôpital, le fait de continuer des antidépresseurs va créer chez ce patient une espèce d'accoutumance qui va modifier sa personnalité et on retrouve, si vous voulez, des borderline qui ont une énergie, une hypersensibilité, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui sont complètement écrasés par le médicament. Donc moi, je reçois parfois des patients, on a l'impression qu'ils ont à la fois le pied sur l'accélérateur et en même temps le pied sur le frein, vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et alors, ils ressentent ce malaise qui les rend encore plus malades, donc on les écrase un peu plus avec le médicament.
Alors,
la psychothérapie marche très bien.
Bien, alors Najette est avec nous, elle rejoint la conversation au 01 53 48 3000. Najette, bienvenue, vous avez le pied sur l'accélérateur ou sur le frein, Najette ?
J'ai un fils qui se met sur l'accélérateur et le frein.
Ah.
Ah oui. Alors, je suis une maman d'un enfant qui est de base, je vous dis, il était autiste. Il sort de son autisme, mais ce que j'ai entendu ce matin, on dirait que c'est mon fils qui est devant moi.
Il a quel âge, voilà, votre fils aujourd'hui, Najette ?
Il a 16 ans maintenant.
D'accord.
Il était autiste de nature, de naissance. Ça a été tout un blocage. Et puis voilà, on l'a su après 3 ans qu'il était autiste, parce que ça ne peut pas déclarer avant. Et là, il s'est soigné. Il était en prise en charge. Tout a été bien. Maintenant, il parle, il discute, il sort de sa coquille et tout. Mais on ne m'a jamais prononcer ce thème-là, borderline. C'est pour la première fois où j'entends le docteur l'évoquer, là. Et c'est mon fils, là, maintenant. C'est pour ça, moi, je dis, c'est toujours, je me suis mise dans ma tête, c'est que c'est toujours des troubles d'autisme qu'il a maintenant. Parce que d'un coup, il est bien, et d'une minute à l'autre, il change de ton, il devient une autre personne, et puis il me fait enfin des crises partout. J'ai jamais été pris en urgence à l'hôpital, parce que je me suis dit, ils vont le calmer, ils vont lui donner encore des médicaments, et ça mène à rien. C'est moi qui ramenais, enfin, c'est moi qui prenais tout ça en charge, et puis je le laissais. Et dans le laps de 2 heures, même pas, parfois, parce que ça diminue, même pas d'une heure, il vient me dire, oui, maman, excusez-moi, j'ai fait ça, et puis il commence à pleurer.
Alors
je voudrais...
Ouais, oui. Allez-y, Najette, allez-y.
Oui, alors je voudrais poser la question à monsieur. Est-ce que ça fait partie de son autisme, là? C'est ce que mon fils souffre maintenant. Parce qu'on ne comprend rien d'un acte ou bien d'une... même un jeu qui ne va pas avec lui, ça déclenche ces crises-là. Est-ce que c'est le borderline qui nous parle maintenant ou bien un autre symptôme d'autisme.
Voilà, une autre expression de sa maladie. Alors,
voilà.
Bah écoutez, vous me posez vraiment une question difficile, parce que s'il a été diagnostiqué autiste et qu'il est sorti de son autisme grâce aux soins qu'on lui a prodigués, je crois qu'aujourd'hui, oui, si vous voulez, il continue à avoir des comportements qui étaient masqués par l'autisme, c'est-à-dire une hypersensibilité, et je crois que ça ira de mieux en mieux si vous le faites accompagner par un psychologue ou psychothérapeute qui va comprendre son histoire et qui va l'aider à verbaliser de plus en plus. Mais on peut pas dire, si vous voulez, que l'autisme s'est transformé en borderline. C'est pas vrai. Je pense que, si vous voulez, il était d'abord autiste, et l'autisme cachait quelque chose qui s'est révélé petit à petit. Et je crois que si on l'accompagne et qu'on l'aide à exprimer toutes les peurs qu'il a au fond de lui, toutes les colères qu'il a au fond de lui, mais c'est surtout de la peur, vous verrez que les situations vont s'améliorer.
Oui, mais pour vous dire, docteur, c'est que mon fils, il est toujours, il est toujours pris en charge par les médecins. Il était enfin par les psychologues, pédopsychiatres, jusqu'à maintenant, il faut dire. Mais on n'arrivait pas à on n'arrivait pas à définir ce qui se passe chez moi, parce que quand je parle avec son psychologue, ou bien son pédopsychiatre, bien sûr, il en a deux, il me dit oui, il faut en parler, il faut le laisser. Mais là, il grandit. Avec le temps, il grandit, mon fils. Il devient ado, il me dépasse de taille. Ce n'est plus les crises que je pourrais gérer auparavant. Maintenant, je ne peux pas le gérer, personnellement, parce qu'il est plus fort que moi.
Mais s'il est suivi correctement par une psychologue ou une psychothérapeute, ou si le psychiatre comprend son trouble, normalement, ça devrait se calmer.
Oui, mais là, jusqu'à maintenant, il a 16 ans. Là, ça a commencé, ça fait ces crises-là, ils ont commencé, ça fait pratiquement 2 ans, 3 ans que je souffre de ces crises, mais là, c'est que je suis vraiment enfermée avec lui. Si je suis avec lui, ça va, mais s'il y a quelqu'un qui rentre dans notre vie, que ce soit sa sœur ou bien la famille ou bien les amis, ça ne lui plaît pas.
Alors, là, je peux pas faire grand-chose depuis mon micro, malheureusement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous, j'espère que vous vous êtes soutenue et aidée, parce que si vous êtes toute seule confrontée à une situation comme ça, vous allez vraiment tomber malade. Hein. Il faut vraiment que vous preniez soin de vous.
Parce que là, personnellement, je suis toute seule à gérer, parce que le papa est décédé. Et puis là, c'est à moi de... D'ailleurs... je gère ce problème-là depuis le décès de son père, depuis qu'il avait l'âge de 5 ans, 4 ans et demi, là. Là, pratiquement, ça fait 12 ans de veuvage avec lui. Mais parce que là, j'ai refusé de refaire ma vie, bien sûr, parce que j'avais un cas. Et grâce à Dieu que j'ai pu faire ce que d'autres, ils n'ont pas réussi. Là, je lui fais sortir, je vis avec lui. J'ai toute ma vie professionnelle, je l'ai raté pour lui. Bon, pour moi, c'est mon fils avant tout. J'ai réussi, mais là, il restait ces troubles-là.
Alors, en fait, moi, si je comprends bien, c'est que vous, personne n'a jamais mis un nom ou un mot sur ces sautes d'humeur de votre fils, sur ces changements d'humeur. Oui. C'est ça que personne n'a expliqué avec vous, en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça. c'est ça.
Si vous voulez, là, je pense que les troubles d'humeur qu'il présente, si vous voulez, sont correspondent exactement aux troubles que l'on retrouve chez les personnes borderline. Il n'y a pas de souci.
Oui. Oui.
Si vous voulez, c'est pas parce que il a des symptômes du trouble borderline qu'il est borderline. Je pense qu'il faut plutôt approfondir d'une façon spécifique, l'accompagner à revenir dans la vie active, parce que c'est un autiste. Donc il revient, si vous voulez, sur le monde. Donc c'est un peu comme s'il avait été bloqué pendant des années dans un silence, et il revient dans le monde. Donc il faut comprendre que c'est violent pour lui.
Oui.
Donc, voyez, c'est compliqué de poser un diagnostic à la radio, Najette, hein, voyez.
Oui, je vois. J'aimerais bien voir le. Enfin, je vais lire son livre encore pour.
C'est vraiment un livre qui inclut les familles et comment finalement s'adapter et vivre avec un borderline. Parce que voilà, ça interroge la famille. Oui. Et comme ils sont incompris. Et que finalement les familles ne comprennent pas toujours ce qui se passe dans la tête de celui qui change d'humeur comme ça.
Voilà.
Ça crée des incompréhensions et finalement et un rejet, une stigmatisation, comme on l'évoquait tout à l'heure.
Oui. Najette, mais mon fils, je pense, oui. Ben, je vais lire son livre et puis je peux avoir le contact du docteur comme ça, s'il pourra m'aider, même si c'est loin, on peut s'entraider par téléphone.
Vous êtes où, Pierre Montaz?
Je suis prête à me déplacer.
Vous habitez où, Najette?
J'habite à Argenteuil.
Ah oui, bah moi je suis porte de Saint-Cloud, donc...
Bon, voilà.
Voilà. Ben je prends et puis voilà, parce que c'est un cas qui me...
Regardez sur Internet, parce que sinon le Conseil de l'Ordre va nous tirer les deux oreilles. Mais vous trouverez facilement Pierre Nantas, porte de Saint-Cloud.
D'accord.
Gros bisous, Najette.
Merci, docteur, et merci, Adil. Et puis, bonne continuation. Je suis avec vous de 6h du mat jusqu'à maintenant. Je suis votre auditrice. Et puis, je salue toute l'équipe. Et vous êtes vraiment agréable et adorable dans tout.
Restez notre auditrice, Najette. À bientôt. Alors, on va accueillir une autre auditrice qui s'appelle Sophia. Sophia, vous êtes la bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour.
Bonjour, Sophia.
Bonjour, j'ai appelé en fait parce que du coup j'ai écouté l'émission qui est très intéressante, hein, merci. Et je reconnaissais dedans un peu mon mari. Donc c'est marrant parce qu'il avait déjà formulé plein de fois ce terme borderline.
Ah oui.
Et il a aucun suivi ni rien, hein. C'est juste que c'est vrai que parfois, très souvent, il a des explosions de colère, des grosses crises assez violentes. Donc, ils peuvent démarrer sur quelque chose qui, moi, me semble totalement banal, quoi. Quelque chose qui ne justifie pas une aussi grosse crise, en fait. Je n'ai pas l'impression que, finalement, ça peut justifier d'en arriver à des grosses colères, aux limites à parler, j'ai envie de me pendre, j'ai envie de me jeter par la fenêtre, des phrases telles que celles-ci, en fait, donc qui sont quand même assez violentes. Parce que, du coup, si on en arrive à dire ça, c'est qu'on souffre. Et sur des colères qui partent au départ sur quelque chose d'assez banal, quoi, une dispute très lambda. Comme je lui dis, c'est pas comme si tu rentres à la maison et que tu me retrouves avec des hommes ou voilà, quelque chose qui pourrait limite justifier que t'exploses à ce point-là, quoi. C'est, je suis pas d'accord sur quelque chose que t'as pu faire. Ou voilà, on peut avoir une discussion, mais pas qui va mener à une aussi grosse colère. Et c'est quelqu'un qui se dévalorise beaucoup, mais énormément. Alors moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a des capacités énormes. Qui peut faire tout ce qu'il veut, en fait. Et il arrive à rien, jamais. Il a plein d'idées, plein de super idées, je trouve. Il arrive jamais à rien parce qu'il n'a pas confiance en lui, il se dévalorise beaucoup. Et c'est très fatigant, en fait, à la longue, parce qu'on a des enfants. Et les enfants, finalement, se retrouvent un peu au milieu de ça aussi. Par exemple, je donne un exemple assez courant de la vie de tout le monde, hein, les enfants. Le matin, le petit va pas vouloir se préparer, va rechigner, un peu comme tous les enfants le matin, quoi. Et lui, ça peut le mettre dans une colère
noire.
Une colère noire, quoi. Ouais. Mais vraiment, et on sent qu'il est à bout, on sent qu'il est limite au bord des larmes, quoi. Et qu'après, il s'en veut de s'être énervé aussi fort. En même temps, il s'en veut pendant qu'il s'énerve, mais il n'arrive pas à se retenir. Alors moi je vais dire, c'est bon, c'est rien, c'est pas grave, il veut pas se réparer, laisse-moi gérer. Et puis, du coup, après, ça va me retomber dessus, quoi, mais dans une colère, mais on a passé des matins comme ça, assez fous, quoi, dans des colères énormes. Et c'est vrai que souvent, j'ai déjà entendu dire « je suis borderline ». Alors, je pense qu'il a peut-être déjà dû faire des recherches ou j'en sais rien, mais je l'ai déjà entendu dire ça. Tu sais que je suis borderline.
En effet, si vous voulez, il est, il présente toutes les caractéristiques du borderline.
C'est bien parce que vous les avez bien décrites. Alors là, Sophia, vous avez résumé ce que c'est qu'une personnalité borderline. Voilà. Vous voyez.
Et en plus, une personnalité borderline masculine. C'est-à-dire
qu'il y en a moins.
Avec toute la dévalorisation qui va avec, en fait. Donc c'est assez. Enfin, je veux dire, quand on est en face d'une personne comme ça, c'est dur. Parce que moi, je suis quelqu'un de très combatif, je suis très forte. Donc c'est vraiment les deux opposés, finalement.
Mais vous n'avez pas choisi par hasard. Hein.
Je ne sais pas, on s'est connus très jeunes. Hein.
Voilà. Hein, c'est-à-dire que vous êtes là pour le stabiliser et il compte sur vous pour le stabiliser, sauf que.
Mais j'y arrive pas.
Au bout d'un certain temps, vous allez fatiguer, quoi.
Mais j'ai fatigué. Donc là, on arrive à un point où on vit plus ensemble, finalement, parce que c'est plus supportable ni pour moi ni pour les enfants, même pour lui.
Ah oui.
Parce qu'on arrive à un point de rupture, en fait, où on n'arrive plus à se comprendre. Moi, c'est lourd, en fait. C'est très lourd. Et j'ai envie de l'aider parce que je vois qu'il souffre. Et je vois vraiment qu'il souffre, que c'est douloureux pour lui. Mais vraiment, physiquement, je le vois. Hein.
Mais faut qu'il est-ce qu'il a entamé une thérapie ou pas?
Non, je l'encourage à le faire parce que moi, je l'ai fait, d'ailleurs, parce que justement, c'est tellement. On a vécu des scènes de violence tellement lourdes. Alors, pas forcément des coups, de la violence, mais vraiment de la violence verbale, de la violence, on va dire, la maison, des choses qui vont être cassées. Lui va se faire du mal à lui physiquement, à se cogner la tête contre les murs, à se mettre des coups de poing au visage, mais vraiment.
Et c'est complètement ça, la personnalité borderline.
Tout à fait.
Que vous décrivez,
c'est vraiment se faire du mal.
C'est ça, c'est exactement ça.
Tout à fait. Ouais. Il a quel âge?
Il a 30 ans, 31 ans.
Oui, écoutez, c'est pas trop tard. Il faudrait que. Non, sincèrement, il faut qu'il rencontre un psychothérapeute.
Alors, il y a aussi une chose, c'est que c'est quelqu'un qui a vachement peur de l'abandon. Et il y a une grosse. En fait, quand il était petit, il a été abandonné. Donc,
C'est QFD, comme on dit.
Il a été abandonné.
Sophia, c'est intéressant parce qu'on n'en a pas encore parlé. Les personnes qui sont borderline, souvent. Alors, peuvent se scarifier, peuvent avoir comme symptôme, c'est ça, se faire du mal à elles-mêmes.
Ah bah oui.
Quand il est en colère, il se fait du mal à lui-même. Hein.
Voilà, c'est
bien
ça.
Sûr,
du
mal.
Il se cogne la tête très fort.
Il se cogne la tête
vraiment.
Contre les murs. Il peut Moi, j'ai un patient, il a traversé la porte avec le poing.
Lui aussi, il a fait ça, et du coup, elle s'est cassée la vitre, et ça lui a ouvert tout le bras.
Voilà.
Ça lui a coupé tout le bras, tout le bras.
Mais c'est pas de sa faute, hein, c'est ça qu'il faut comprendre aussi.
Mais moi, j'arrive plus à comprendre, parce que oui, c'est pas de sa faute, je le conçois, mais c'est lourd, donc je sais pas comment l'aider. J'ai envie de l'aider, parce que déjà, pour notre famille, et parce que je vois que... Et après, il redescend, hein. Après, il redescend, désolé, vraiment, on sent qu'il est... Et en fait, il se met complètement comme un petit enfant dans un... Je sais pas comment expliquer quand il redescend.
Qui boude, pas du tout.
Un petit enfant fragile qui est là, qui courbe le dos, qui courbe l'échine, qui sait plus où se mettre, qui a fait une grosse bêtise, vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas tellement à expliquer, mais l'image est un peu ça, en fait. L'image vraiment de quelqu'un de très fragile, de très... Mmh.
Alors, Sophia, c'est ce qu'on va faire. On va marquer une petite pause, et puis, dans un instant, Pierre Nantas va vous expliquer comment vous pouvez l'aider, votre mari.
D'accord.
Vous restez avec nous. Et puis, si vous voulez rejoindre la conversation... Bon, ça dépend, si vous voulez, vous avez un forfait illimité... Vous restez avec nous. Si vous avez une MobiCarte, vous écoutez la réponse à la radio.
D'accord.
Tout de suite. Et puis, vous pouvez aussi réagir au 01 53 48 3000. À tout de suite.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, j'ai invité ce matin Pierre Nantas, c'est un des spécialistes français du trouble borderline. Vous venez de publier un livre qui s'appelle « Le système borderline, histoire de famille chez l'armatant ». Histoire de famille parce que la famille... est concernée par les borderline, et on le voit avec Sophia qui est en ligne avec nous, qui elle a un mari qui est borderline. Alors Sophia, vous avez patienté. Pierre Nantas, qu'est-ce qu'on peut conseiller à tous ceux qui vivent avec une personne qui est borderline? Comment est-ce qu'elles peuvent les aider de façon utile?
Dans un premier temps, il faut que les personnes qui vivent avec une personne borderline se disent qu'elles ne sont pas coupables de ce qui se passe. Et d'une. Deuxièmement, il faut qu'elles acceptent d'accompagner le proche par de l'écoute bienveillante. Il suffit pas, si vous voulez, quand tu es avec quelqu'un de borderline, de lui dire t'inquiète pas, ça va aller. Mais pourquoi tu te mets dans cet état-là? Parce que dans ces moments-là, si vous voulez, on renforce chez le borderline son sentiment de culpabilité. Et ce que disait Sophia tout à l'heure, c'est que son mari a le processus spécifique du borderline, c'est-à-dire qu'il est autodestructeur. Une des caractéristiques des borderline, c'est qu'ils arrivent à saboter tout ce qui les entoure, y compris les gens qui les aiment le plus. Ils poussent à bout. Je pense que vous avez été poussé à bout, Sophia, et vous tenez le coup, c'est bien. Mais à un moment donné, vous craquerez. Donc je pense que, si vous voulez, la priorité des priorités, c'est de se faire soigner par un psychothérapeute, et non pas un psychologue, mais un psychothérapeute. Pourquoi ? Parce que pour soigner les borderline, il faut avoir une formation spécifique, parce que si on n'a pas soi-même été percuté par si on n'a pas la formation pour gérer ce trouble, ben on tient pas longtemps avec un borderline.
Si je vous comprends bien, c'est qu'il faut avoir soi-même été borderline pour soigner un borderline ou pour le comprendre?
J'irai pas jusque là, mais il faut avoir quand même suivi une formation importante pour ne pas tomber dans le processus du contre-transfert.
Parce que, c'est quoi un contre-transfert?
Un contre-transfert, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de... Si vous supposez que vous soyez borderline, vous partez en crise, et si je n'ai pas fait une formation pour gérer votre crise, je vais prendre ça comme de l'agressivité personnelle, et vous allez m'entraîner dans votre problème. Mmh. Et donc, si vous voulez, vous allez déclencher chez moi une colère, par votre colère, ou votre tristesse va déclencher chez moi une tristesse, et on va pleurer ensemble. C'est pas une bonne chose. Donc c'est pour ça que je dis que les psychothérapeutes qui sont capables, ou les psychologues, parce qu'il y a pas besoin non plus, faut juste avoir fait une formation spécifique à ce trouble. Pour gérer ça, il faut avoir les épaules bien centrées.
Sophia, vous avez les épaules solides?
Oui, je les aime, mais je pense pas que je sois à la personne qu'il faut. Je pense pas. Je pense que je suis la personne qui peut, on va dire, lui apporter de la force. Ça, j'ai pas de doute là-dessus, puisque c'est ce que j'ai toujours fait. Mais après, on est arrivé ça fait des années qu'on est dedans, en fait. Des crises, etc. Donc, je suis devenue un peu pour lui, dans son esprit, je pense que je suis un peu devenue le problème. Puisque souvent, ces crises sont déclenchées avec moi. Plus qu'avec les autres, finalement. Je sais pas, moi, j'ai un peu mis ça comme les enfants, vous savez, la figure d'attachement. Où l'enfant, quand il est à l'école, on va dire, oh, votre enfant, il est super. Et dès qu'il rentre et qu'il est à la maison avec sa mère ou son père, la figure d'attachement, c'est pas un petit monstre, mais il va se mettre à pleurer, à lâcher toutes ses émotions, à montrer vraiment tout ce qu'il a qui lui fait du mal à l'intérieur. Et ben, c'est un peu ça. C'est comme si c'était devenu, entre guillemets, la figure d'attachement. C'est-à-dire qu'il va se lâcher avec moi. Et sauf que moi, j'arrive plus à recevoir, en fait, ces émotions parce que j'en ai trop. Donc moi je m'énerve pas, c'est-à-dire que je vais pas mettre à crier, faire des crises, ça va me fermer, et je vais plutôt être du genre à snober, et c'est encore pire, parce que finalement je suis ni dans l'écoute, ni dans l'agressivité, je suis dans l'ignorance.
Alors Sophia, parce qu'il y a beaucoup d'appels, donc on va prendre d'autres personnes, mais qu'est-ce qu'on peut dire à Sophia pour terminer, Pierre Nantas?
Moi je proposerais à Sophia, vous habitez où Sophia?
Juvisy.
Je vous invite, si vous voulez, à prendre rendez-vous soit avec moi, soit avec quelqu'un d'autre, avec votre mari, en compagnie de votre mari, pour que devant une tierce personne, vous puissiez expliquer ce que vous ressentez et qu'il entende devant une tierce personne ce qu'il ressent, et que la tierce personne puisse lui expliquer, parce que les borderline sont des gens très intelligents, hyper émotifs, mais très intelligents, et ils comprennent. Et si vous voulez, à partir du moment où ils ont compris d'où venait le problème, on peut entamer un traitement.
Voilà, Sophia. Donc ben voilà, vous pouvez contacter ou Pierre Nantas ou un autre psychothérapeute. Merci Sophia. On va à Lyon et Nadia est avec nous. Nadia, bienvenue sur Beurre FM.
Allô.
Oui Nadia, bienvenue.
Bonjour.
Si vous avez, si vous avez le haut-parleur ou quelque chose qui ressemble, je veux bien que vous reveniez vers nous.
Voilà.
Allez, on y va. On y va. Nadia.
Moi, je suis un peu concernée par le sujet, parce que j'ai été borderline, comme vous dites. Mais comparé à certaines personnes, je me suis fait une autopsychanalyse, en fait.
Oula, c'est quoi une autopsychanalyse?
Au bout d'un moment, de vue de mon caractère et les explosions qu'il y avait de colère, on ne voit pas la vie comme tout le monde à certains moments. Il nous arrive d'avoir des choses, des envies. Je me suis dit, il y a un problème quelque part. Et il fallait que je trouve le problème et que je comprenne d'où venaient toutes ces colères, toutes ces envies néfastes, négatives, jamais réussir les choses, jamais aller au bout des choses. Et donc voilà.
D'accord. Et est-ce que vous avez compris d'où elles viennent, ces colères, Nadia ?
Ces colères viennent d'un moment donné. Vous savez, dans notre vie, nous arrive un impact que tous on a des difficultés à plus ou moins gérer. Enfin voilà, notre cerveau il est constitué d'une certaine façon et il y a des choses qui vont nous arriver, d'autres vont mieux les gérer que certaines personnes. Et à ce moment-là, j'ai pas été prise en charge comme il fallait. Et les choses se sont accumulées. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors là, Nadia, vous me connaissez, moi je suis curieux. C'est quoi l'impact chez vous ?
C'est-à-dire l'impact.
Vous dites qu'on est touché par un impact. Vous, quel a été cet événement déclencheur, finalement ?
Dans ma jeunesse, j'ai vécu un accident qui a été très, très dramatique. Donc, moi, il ne m'est rien arrivé. Mais ceux qui étaient là, il leur est arrivé des choses très, très graves. Et j'ai vu les choses.
D'accord.
Et comme moi, physiquement, il ne m'est rien arrivé, pour mon entourage, il n'y avait rien de grave, quoi. Mmh. Mais en fait, c'était tout du psychologique. Et cette psychologie, enfin, au début, on pleure pas, ça nous fait rien, parce que voilà, c'est la vie, on voit la vie autrement, on se dit la vie, elle tient qu'à ça. Et après, je commençais à me faire du mal en buvant de l'alcool, en fumant de la drogue, en voulant me sentir vivre, en devenant délinquante, en cambriolant, en faisant des choses. En fait, je voulais me sentir mon cœur, parce que j'avais l'impression que la vie, elle tenait qu'à ça. Mmh. Et personne ne voyait ma souffrance intérieure, et je pensais qu'il n'y avait pas de souffrance quelque part. Mais au fur et à mesure des années, enfin, ça faisait comme un cycle. À ce moment-là, je commençais à péter les plombs et à repartir dans ce cycle de boire, de faire les choses dans l'extrême. Et j'étais tout le temps avec les gens, j'avais du mal à avoir une relation, parce que je ne voyais pas les choses comme eux déjà.
Ouais.
J'avais du mal à avoir des conversations concrètes. Je me renfermais sur moi-même. Je traînais qu'avec des gens néfastes. Parce que je me sentais vivre avec ces gens-là, mais en fait c'est pas la vie. Enfin voilà.
Alors,
j'ai commencé à avoir des pensées tordues. Au bout d'un moment, on se dit stop quoi.
Bon,
il y a un problème quelque part.
Nadia, vous savez quoi ? Vous avez une histoire. J'ai envie de passer la journée avec vous parce que pour l'écouter. Mais comme l'émission va terminer dans quelques instants et que je vois que Pierre Nantas a envie de réagir, je voudrais bien lui donner la parole. Alors, Pierre Nantas.
Oui, Nadia, je voulais rajouter à ce que vous avez dit que la cause de votre souffrance, vous l'avez très bien repérée, c'est un traumatisme à un moment donné de votre vie, certainement dans votre enfance. Et en dehors des différentes origines dont on a parlé tout à l'heure, le traumatisme subi dans l'enfance, ça peut être subi personnellement, ça peut être subi d'une façon en spectateur, voyez, et ça crée un choc traumatique qui est insupportable et qui se réveille après selon les symptômes que vous avez décrits. Et en effet, je comprends que vous avez essayé pendant des années de surmonter tout cela. Il y a des techniques aujourd'hui, si vous voulez, pour aller encore plus loin dans la guérison de ce traumatisme. Ce sont des techniques comme le MDR, comme l'hypnose, etc., qui peuvent vous aider, en plus de la psychothérapie, parce que pour pouvoir sortir de cette douleur. En tout cas, merci de votre témoignage.
C'est quoi le MDR pour tout le monde ?
Le MDR, c'est une technique de désensibilisation qui est pratiquée par le mouvement des yeux. Mmh.
Merci Nadia, en tout cas, de votre témoignage. On pourra le reprendre un jour, parce que c'est une histoire qu'il faut entendre, effectivement. Il n'y a pas quelque chose qui relève du syndrome du survivant dans l'histoire de Nadia ?
Ah si, tout à fait, c'est tout à fait ça, oui. Hein? D'ailleurs, la plupart des grands borderline sont des exemples types de la survivance.
Bien, en tout cas, c'est une thématique nouvelle qui commence à arriver en France, hein, parce qu'à l'étranger, on parle beaucoup plus. Hein, si vous allez sur des sites anglais, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de, d'informations sur ce qu'on appelle les personnalités ou le trouble borderline. Et je rappelle, Pierre Dantas, que vous, vous publiez ce livre, hein, ça s'appelle « Le système borderline, histoire de famille » aux éditions L'Harmattan. C'est un plaisir de passer cette heure en votre compagnie.
Moi aussi, merci beaucoup.
Beurre FM, 9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.